Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, nous entrons dans l'histoire. Celle du combat d'une femme dont le courage frise la folie pour la justice. L'histoire d'une femme qui a traqué les nazis. Elle s'appelle Beate Klarsfeld. Elle a notamment retrouvé la trace d'un des plus épouvantables criminels nazis, Alois Brunner, qui se cachait en Syrie. Bonne écoute. Beate, c'est une amie, c'est un personnage extraordinaire, indispensable à l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé Klaus Barbie, elle a remis la main sur Alois Brunner, en tout cas elle l'a dérangé, elle a empêché ces gens-là de dormir en paix. Quand il a été question d'aller chercher, de partir avec Beate Klarsfeld, qui allait essayer de prouver au monde que la Syrie protégeait, cachait Alois Brunner, j'étais concerné, il fallait que je fasse ça. C'était ma petite participation à l'effort de guerre. Cette histoire, elle m'a marqué parce que j'ai eu une peur épouvantable en partant là-bas. C'était presque insensé. Et c'est plus qu'une aventure, c'est un film. Passer 5 jours en Syrie, à Damas, avec Beate Klarsfeld, c'est quand même juste quelque chose d'extraordinaire.
Je crois qu'ils ont regardé d'abord un certain moment avant d'obtenir, je crois, l'ordre de m'arrêter.
J'avais un t-shirt blanc, j'étais près du hublot. Je voyais mon cœur qui battait dans mon t-shirt, tellement j'avais peur. Et l'avion a redécollé, on est parti. Et arrivé à Orly Sud, j'ai appelé Serge. Et je lui ai dit, ça y est, c'est fait. Quand je suis arrivé à François, le ministère des Affaires étrangères m'a appelé et j'ai eu Roland Dumas qui m'a dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Un commandant SS de Drancy a été retrouvé à Damas.
Beate Klarsfeld, expulsée de Syrie où elle avait manifesté contre la présence du criminel nazi Alois Brunner, est arrivée hier soir à Paris. Comme son mari, Madame Klarsfeld, vous le savez, dénonce partout les criminels de guerre.
Il est directement impliqué dans la déportation de 100 000 juifs de tout âge.
Les époux Klarsfeld, tout le monde les connaît hein, comme chasseurs de nazis, mais en fait, c'est un couple de cinéma. Leur rencontre, c'est comme dans un film. Ils se sont croisés sur le quai du métro à Paris. Et ça a des allures d'une photo de Doisneau. D'ailleurs, c'était à l'époque du noir et blanc. La rencontre de Beate et Serge Klarsfeld, c'est une photo de Doisneau.
On s'était retrouvés sur les quais et puis... Une fois après dans le métro, il a commencé à me parler en disant « Ah, est-ce que vous êtes anglaise ?» J'ai dit « Non, je suis allemande. » Donc la communication a commencé et en changement de train, il devait prendre un autre train. Je lui ai donné le numéro de téléphone de la famille d'Aubert et 2 jours plus tard, il m'a téléphoné et on s'est rencontrés tout de suite après devant l'église de la Porte de Saint-Cloud.
Et pourtant, ces deux-là n'étaient pas faits pour se rencontrer. Lui, fils de déporté, c'était pas le bon casting. Vous êtes la fille d'un soldat allemand.
C'était la Wehrmacht qui était obligée de s'engager dans l'armée. Il devait quitter son poste, il travaillait dans l'assurance et il avait eu la chance de survivre parce qu'il avait la pneumonie. Donc souvent, la plupart, beaucoup allaient en Russie. Il a évité ça et étant donné que la pneumonie était allée à l'hôpital et en sortant de l'hôpital, on l'a mis dans un bureau et travaillait pour le régime nazi.
Ils auraient pu se contenter de rassembler de la documentation, d'établir des listes de convois, de personnes qui ont été emmenées dans les convois vers l'Allemagne, se documenter sur les crimes des nazis, mais ils sont allés bien plus loin. Finalement, ils sont allés les chercher eux-mêmes, les nazis. Et en 1991, ils retrouvent la trace d'Alois Brunner.
Alois Brunner, c'était quelqu'un d'ailleurs qui a arrêté des juifs à Berlin, qui était à Drancy, le chef de Drancy, et puis c'est lui finalement qui a arrêté mon beau-père à Nice et l'a envoyé de Drancy sur Auschwitz où il était gazé.
Le père de Serge.
Le père de Serge, oui.
Comme vous dites, il était le chef de Drancy. C'est quoi Drancy? Parce que tout le monde ne connaît pas Drancy.
Mais Drancy, c'était le camp de l'annexe de Auschwitz à Paris, à Drancy. Les juifs passaient par Drancy pour être après envoyés à l'Est, Sobibor, à Auschwitz-Birkenau, etc.
C'était le point de départ de la France vers les camps.
Vers les camps d'extermination, voilà.
Combien de personnes sont passées à Drancy?
En principe, de France, ont été déportés 76 000 juifs.
Et la besogne d'Alois Brunner, c'était quoi?
Il était chef là-bas, c'était lui qui dirigeait le camp et c'était quand même quelqu'un vraiment très, très terrible parce qu'il savait très bien les juifs qui partaient pour la mort.
des familles, des enfants.
Familles, des enfants, bien sûr.
À la fin de la guerre, qu'est-ce que devient Aloïse Brunner?
Je crois qu'au début, il a dû partir vaguement en Égypte, je ne sais pas, mais en principe, on a eu des nouvelles après, quand il était en Syrie. Donc, d'ailleurs, il est reconnu par le service secret allemand, Bundeswehr. Il savait très bien qu'il était en Syrie. Il travaillait pour les Allemands. Il achetait des armes. Enfin, il était quand même en lien avec l'Allemagne. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un livre était sorti. Donc, il savait qu'Aloïse Brunner était en Syrie. Il était venu là-bas protégé par Assad parce qu'il travaillait pour le père de Bachar aujourd'hui. Donc, il a rendu le service. Donc, pour ça, il était protégé parce que les demandes d'extradition étaient venues et ils n'ont jamais réagi là-dessus.
Donc, on est à la fin de la guerre. Aloïse Brunner disparaît. Il est né en 1912 en Allemagne et là, il a 33 ans. Vous, vous avez 6 ans.
Voilà.
Et Aloïse Brunner, c'est pas n'importe qui, hein, c'est lui qui a arrêté le père de Serge Klarsfeld.
Quand la famille de Serge est réfugiée à Nice, c'était au moment où il y avait encore des Italiennes. Et donc, c'était, pour les Juifs, c'était très calme, il n'y a pas de déportation. Et puis, quand les Italiens sont retirés, les Allemands sont entrés et Brunner était responsable pour les arrestations. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient réfugiés donc, dans le Midi. Et c'est lui qui avait organisé la rafle des Juifs, qui était horrible. On les arrêtait dans la rue. Mon beau-père savait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il a fait dans l'appartement un double fond dans le placard. Brunner, avec ses soldats qui sont venus faire la rafle, ils ont arrêté sur l'autre côté de l'appartement une autre famille. Ils ont torturé le fils pour dire où est ton père. Quand ils ont sonné chez l'appartement de Serge, mon beau-père qui parlait plus de langue a ouvert la porte et puis il a parlé en allemand. Il dit, ma famille n'est pas là, ils sont allés à la campagne parce qu'il fallait désinfecter l'appartement. Donc ils l'ont cru.
Serge a une cachette, il la connaît. Il sait qu'il doit aller se cacher là. Il va se planquer dans un double fond, dans un placard. Et c'est la dernière fois qu'il va voir son père. Trouver Aloïse Brunner, c'est ça aussi. C'est que vous avez Serge et vous, quelque part, un compte à régler avec lui.
Oui, voilà, c'était quand même quelqu'un qui était vraiment un des pires dans l'arrestation des Juifs. Et puis, il fallait donc aussi, donc je dis, on a essayé de demander à la Syrie de l'extrader. Protégés comme Klaus Barbie aussi, ils étaient des gens qui étaient toujours protégés par les dictateurs.
Aloïse Brunner, donc, disparaît après la guerre, va se cacher en Égypte, sans doute, travailler avec le renseignement, vendre des armes. Et puis, tout le monde va se mettre à le rechercher, parce que c'est un des derniers criminels nazis encore en cavale, hein, encore en fuite, dans les années 90. Il y a une enquête des gendarmes de Paris, la section de recherche de la gendarmerie de Paris, un sous-officier qui s'appelle Philippe Matty, qui cherche Aloïse Brunner, qui l'a en partie localisé à Damas. Et en fait, les gendarmes surveille ce que vous faites avec Serge parce que vous allez très vite. Vous allez d'ailleurs plus vite qu'eux. Vous avez des renseignements qu'ils n'ont pas. Et les gendarmes vont l'apprendre. Vont apprendre que vous êtes en train de préparer quelque chose. Les gendarmes vont apprendre que vous êtes en train de préparer quelque chose en Syrie. Et c'est comme ça que je vais venir chez vous. En fait, j'appelle Serge. Je dis à Serge Klarsfeld, j'aimerais vous rencontrer. Je viens ici, mais c'est à l'étage. Hein,
c'était... Oui, c'était l'appartement Arnaud, voilà, c'est ça.
Voilà,
oui.
À l'étage, dans cet immeuble parisien. Je rencontre votre mari et je lui dis, je suis au courant de ce que vous êtes en train de préparer en Syrie. Ne me demandez pas comment je le sais, j'aimerais partir en Syrie avec Béate. Et je me souviens qu'il vous appelle, il vous téléphone et vous me dites, eh ben, venez. Donc je vais chez vous, vous habitiez Porte de Saint-Cloud, et vous me dites, je pars tel jour à telle heure, je vous emmène avec moi. Vous, vous avez logé, hein, grâce à vos renseignements, vous avez logé Aloïse Brunner en Syrie.
Même téléphoné avec lui, voilà.
Téléphoné avec lui?
Ben oui, parce que les renseignements, on avait surveillé aussi sa femme qui était restée à Vienne, et puis on avait son numéro de téléphone, et puis j'ai téléphoné, mais enfin, de toute façon, il avait donné des interviews, le journal allemand du Bund, et puis un autre, qui l'ont même photographié, les photos qui ont été prises en Syrie, à Damas, c'était fait par les Allemands. Et moi, j'avais essayé de lui téléphoner, j'ai dit, monsieur Brunner, non, il disait, monsieur Fischer, j'ai dit, écoutez, j'ai un ami de mon père qui était avec vous à Berlin. Il paraît que vous avez des problèmes de santé, vous allez en Suisse pour vous faire soigner. Il y aura un mandat d'arrêt contre vous. Il m'a dit, j'ai jamais eu l'intention d'aller en Suisse pour me faire soigner, mais je vous remercie beaucoup pour ce renseignement. Donc, je l'ai eu personnellement au téléphone. Donc, vous voyez, c'était sa voix.
Donc, ça, c'est l'histoire d'Aloïse Brunner que vous allez finalement aller chercher en Syrie. C'est quoi votre idée quand vous partez en Syrie? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Ben, en principe, c'était surtout pour protester. C'était pour demander ouvertement, d'abord demander un rendez-vous avec Assad, ce qui n'est pas possible, bien entendu. Et puis, donc, quand j'étais venue, c'était manifester. J'avais demandé aussi à nouveau un rendez-vous, ce n'était pas possible, parce qu'on avait aussi connu quelqu'un qui avait un hôtel dans lequel j'étais, qui était propriétaire de cet hôtel que j'ai connu à Paris, et qui m'avait dit aussi l'adresse où elle habitait, Brunner.
Dès qu'on est tombé d'accord que je partais avec elle, je suis rentré à François, le directeur de la rédaction était Michel Chiffre, et je lui ai demandé de l'argent. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui dire de quoi il s'agissait. Il m'a dit pas de problème. Je suis allé à la caisse, j'ai eu 20 ou 30 000 francs. Je suis allé à la Syrianair, qui était une compagnie aérienne syrienne, qui était à côté de l'Opéra. Et j'ai pris un billet d'avion que j'ai payé en liquide. Je crois que c'était très cher, 6 ou 8 000 francs. Dans le même avion, sur le même vol aller-retour que Béat, enfin moi j'ai pris un retour mais pas elle évidemment, donc je revenais le samedi matin, et puis j'ai pris un visa pour aller en Syrie. J'ai raconté que j'étais commercial, que je travaillais dans le papier, et que j'allais passer une semaine visiter Damas. Béat Klarsfeld, il est hors de question qu'elle mette les pieds en Syrie. Klarsfeld c'est juif, elle va pas aller en Syrie, c'est impossible, elle peut pas y aller. Elle m'explique comment elle va faire. Comment elle va entrer en Syrie?
Mais alors, j'étais déjà refusée une fois d'aller en Syrie, parce que je venais d'Égypte, je crois. Donc, je devais chercher quelqu'un, un ami à notre association. Donne-moi ton passeport et je veux coller ma photo dessus et je veux ressembler à toi. C'était la photo de Trudy qui était restée. Et puis, mais moi, je me maquillais pour te ressembler le maximum, voilà.
Donc, comme vous ne pouvez pas reprendre votre passeport, Beat Klarsfeld, pour aller en Syrie, elle vous prête le sien.
Elle me passe le sien, oui.
Vous partez avec le passeport de votre ami, et le matin, donc, bah, Trulli, vous ne lui ressemblez pas.
Non, mais enfin, c'est la photo après.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous faire pour passer avec votre visage de Beat Klarsfeld? Comment est-ce que vous allez faire pour ressembler à la photo du passeport?
Ben, c'était une maquilleuse qui était venue d'ailleurs chez nous à la porte de Saint-Cloud, je crois que chez nous dans l'appartement, pour me maquiller et essayer de, avec une perruque d'ailleurs, pour que je ressemble assez. Je crois que vous l'avez vu d'ailleurs, non? Je crois que vous avez dit que vous ressemblez beaucoup, non? C'est ça.
Moi, voilà. J'ai fait les photos. Donc, la maquilleuse était là, je crois qu'il était 4 heures du matin, 4 ou 5 heures.
Elle est venue chez nous, voilà, c'est ça.
Ça, c'est dans votre appartement.
Voilà, c'est ça.
Et la maquilleuse, donc, vous a tiré les cheveux, attaché, mis une perruque brune pour ressembler à la photo de Trulli. Et on est parti à 5 ou 6 heures. On est monté dans un taxi tous les deux.
Oui.
Serge vous a fait un petit signe de la main. Et on est parti à Orly Sud. Et à Orly Sud, il y a d'autres photos, je ne sais pas si vous les avez. Vous êtes assise en train de lire le journal, j'ai fait des photos de vous. Et à partir de là, on ne se connaissait plus.
Ah oui.
Donc on a pris l'avion tous les deux. On est parti à Damas. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. On est arrivé là-bas. On a retrouvé...
Un ami américain, Peter Hellman.
C'est un journaliste.
Un journaliste, oui, il travaillait pour New York Times, je crois. Et il voulait aussi venir et faire un reportage. Il était déjà arrivé quand j'ai passé. J'ai dû lui faire un signe parce qu'il m'a dit que tu étais tellement bien maquillée, je t'ai pas reconnu, voilà.
On a dîné avec lui, tous les trois. Mm-hmm. Et là, j'ai découvert le stratagème que vous vouliez mettre en place. C'était aller déployer une banderole.
C'était de protester. Et puis, on avait aussi essayé de trouver l'endroit le plus apte où on pouvait protester. Il y avait quand même la police, c'était le ministère de l'Intérieur. J'ai dû refaire la bande à l'hôtel même.
Alors, Peter Hellman, il était arrivé avant nous. Mm-hmm. Et il est reparti plus tôt. Mm-hmm. Il nous a dit le premier soir, on a dîné ensemble, il nous a dit « c'est trop dangereux, il ne faut pas faire ça ». Et il est reparti, lui.
Ah bon?
Et nous, on est restés tous les deux pendant 4 jours.
Oui.
Et on a fait l'opération le samedi matin. Alors nous, on a passé 4 jours tous les deux à chercher dans Damas l'endroit où on pourrait aller, déployer la banderole.
On a fait tout avec les taxis pour savoir de quel endroit est beaucoup mieux. Et puis, c'était le ministère, devant le ministère de l'Intérieur, c'était une grande place.
Moi, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment très peur. Qu'on se fasse, bon, vous, vous alliez vous faire arrêter, mais vous finiez pour ça. Moi, j'avais 30 ans, j'avais pas tellement envie de tomber dans les mains des Syriens. Et on était à l'hôtel, vous étiez au deuxième étage, et moi, j'étais au cinquième,
ouais.
À l'hôtel Sham Palace.
Mmh, oui, c'est ça. Donc, on connaissait le propriétaire, justement.
Et le soir, donc la veille, le vendredi soir, je suis descendu vous voir, on a dîné. Après, je suis redescendu vous voir dans votre chambre et vous étiez en train d'essayer de faire la banderole sur un drap.
Oui, voilà.
Je vous ai aidé à écrire.
Oui, hein. Je m'appelle.
Donc, le lendemain matin, on est partis tous les deux. On avait mis au point un stratagème.
Oui.
Vous avez traversé la rue avec la banderole.
Et là, j'ai débrûlé ma bande et puis pour dire Assad, je crois que c'est le texte, c'était Assad, délivré.
Moi, j'ai le texte en tête par cœur.
Par cœur, c'était...
Hafez el-Assad, extrade le criminel nazi Eloïse Brunner, et vous aviez rajouté en dessous, et libère les juifs de Syrie.
Ah oui, c'est vrai, c'était ça, voilà. Donc c'était, j'ai ouvert ça, je ne sais pas, ils étaient restés d'abord, je crois qu'ils ont regardé d'abord un certain moment, avant d'obtenir, je crois, l'ordre de m'arrêter, c'est ça.
Ouais.
Donc ils m'ont
c'est
arrêté.
C'est assez violent, hein. Moi j'ai assisté.
Moi, je ne m'en rappelle pas tellement, ils m'ont arrêté, et puis ils m'ont ramené à l'hôtel, ils sont montés dans la chambre, et là ils ont retrouvé mon passeport allemand, je crois, c'était allemand ou français.
Votre vrai passeport, Beat Klarsfeld.
Donc ils savaient tout de suite qui je suis.
Et vous aviez fourré sous votre matelas des documents pour les retenir, vous m'avez dit.
C'était des documents sur Brunner, non, que j'ai dû apporter.
Je ne sais plus.
Je crois, parce que je voulais les remettre, je crois que c'était les documents, le dossier Brunner, oui.
Et vous m'avez dit, ça va les occuper. Et moi, pendant ce temps, j'ai fait des photos et je suis parti à l'aéroport. J'ai pris mon avion et je suis rentré. Vous m'avez dit, je ne parlerai pas avant 13 heures. Ça te laisse le temps de prendre ton avion et de partir. L'avion a fait une escale à Alep qui n'était pas prévue, mais il a redécollé. Il y a des types qui sont montés dans l'avion, qui ont regardé. J'ai cru que c'était pour moi,
ah bon ?
J'étais prêt à me lever.
Ouais. Ouais.
J'avais tellement peur. J'avais un t-shirt blanc, j'étais près de du hublot. Je voyais mon cœur qui battait dans mon t-shirt, tellement j'avais peur. Et l'avion a redécollé, on est parti. Et arrivé à Orly Sud, j'ai appelé Serge.
Ouais.
Et je lui ai dit, ça y est, c'est fait. Et donc, il a appelé Roland Dumas. Quand je suis arrivé à François, le ministère des Affaires étrangères m'a appelé et j'ai eu Roland Dumas qui m'a dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors après, qu'est-ce qui s'est passé à Damas? Vous avez été arrêté, vous êtes resté combien de temps?
J'avais un service de sécurité qui m'accompagnait, qui parlait très bien le français. Et puis, donc, j'ai expliqué aussi pourquoi, en tant qu'Allemande, je suis obligée de faire ce genre de choses. Brunner était quelqu'un qui a déporté, justement, mon beau-père. Et puis, donc, c'était un principe, un contact plutôt, mais enfin, il était surveillé. Mais c'était le service de sécurité, il ne me laissait plus une seconde toute seule. Voilà.
On ne vous a pas jeté en prison?
Non. J'étais restée à l'hôtel et puis, je crois qu'un ou deux jours après, j'étais amenée...
Plus longtemps, vous êtes restée plus longtemps, plusieurs
j'étais
jours.
J'étais amenée leur, par le service de sécurité leur, à l'aéroport. Ils m'ont expulsée.
Moi, j'avais écrit mon article dans France Soir. Donc, tout le monde vous attendait à Orly Sud. Moi, je suis arrivée, je vous avais apporté un gros bouquet de fleurs. Il y avait Serge et... Sa mère ou non?
Oui, ma belle-mère encore, oui, voilà.
Votre belle-mère?
Voilà, oui.
Mais là, j'étais plus journaliste, c'était compliqué pour moi, parce que je ne pouvais pas être avec les journalistes, enfin, je m'étais trop engagé dans l'histoire. Ils ont changé Eloïse Brunner de planque, ils l'ont emmené ailleurs,
oui,
les
c'est
Syriens.
Ça, voilà, c'est ça.
C'est ça?
Il était donc, c'était celui qui était propriétaire de l'hôtel, qui connaissait cette maison, et il nous avait dit que le garde du corps de Assad sont venus, parce que maintenant tout le monde le sait que Fischer et Eloïse Brunner, ils l'ont mis dans une résidence à l'extérieur de Damas, où il était sur surveillance, mais ce n'était pas la prison comme là où il était mort après. C'était une surveillance surveillée, parce qu'il y avait tout de suite des services de sécurité sur le toit, parce que maintenant, ils ne voulaient pas non plus laisser Brunner toute seule se promener à Damas, parce que maintenant, il était reconnu. Donc, et surtout, ils voulaient tuer les juifs. C'était toujours, on ne sait pas où il est.
C'est ce qui m'étonne toujours quand on en parle, on en a reparlé plusieurs fois tous les deux, Béate, c'est que pour moi, c'est un peu l'aventure de ma vie, ça, de ma vie de journaliste. Bon, j'avais 30 ans, hein. Mais quand j'en reparle, j'ai toujours la même peur. J'ai toujours la même peur de tomber dans les mains des Syriens parce que tout était inhospitalier là-bas. Et vous, j'ai l'impression que vous racontez ça comme si c'était...
Bon, écoutez, j'étais dans d'autres pays où j'étais arrêtée, en Amérique du Sud, à Beyrouth. J'étais arrêtée quand j'ai protesté contre l'antisémitisme et la restalination à Prague ou à Varsovie. Donc,
c'est une habitude.
Bah, j'étais arrêtée, oui, bien sûr, pour faire juger les criminels nazis Lischka Hagen Heinrichsen. On avait manifesté, on a voulu enlever Lischka, le ramener en France. Donc j'étais condamnée une fois à 3 semaines et une fois à 2 semaines. J'ai passé quand même 5 semaines en prison en Allemagne, à Cologne. Le plus important pour nous, c'était de faire juger les criminels nazis allemands qui étaient responsables en France pour la déportation des 76 000 juifs.
Pour moi, Béate, 30 ans plus tard, c'est la même personne fascinante, avec toujours le même mental. J'ai pas l'impression qu'elle a vieilli. En tout cas, son cerveau n'a pas vieilli et son courage est identique. C'est la même combattante avec des expressions fortes, des mots forts. Et je crois que si son corps lui permettait encore de partir, elle le ferait, elle ira en chercher s'il en reste encore un ou deux. C'est un honneur immense et un cadeau que m'a fait la vie de passer du temps dans une opération spéciale avec un personnage comme Beate Klarfeld. Elle a pris tellement de risques, elle est allée gifler un président, elle est allée chercher un type en Amérique du Sud. Je pense qu'elle a peur de rien. Ah non, elle a peur de rien. Elle le fait avec une force surnaturelle, parce que le surnaturel, c'est le compte qu'elle a à régler avec son pays, avec les atrocités qui ont été commises par l'Allemagne nazie. Je pense qu'elle l'a réglé.
Vous venez d'écouter L'Instant Où, un podcast BFM TV incarné par Dominique Rizet. Réalisation Yves Pulici. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur le site et l'application BFM TV et toutes les plateformes d'écoute.